Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité, AAU.
On va continuer pour notre dernière session. Ok, donc on a deux invités pour la dernière session. Donc, à notre gauche, Joanne Clavel, qui est chercheur au CNRS à l'UMR LADIS, et Mathias Rollo, qui est maître de conférence à l'ENSA de Grenoble, donc membre du Cresson invitant. Et du coup, on vous laisse la parole, peut-être en commençant comme les précédents, à présenter un peu d'où vous parlez, de vos terrains, de vos questionnements, de vos recherches.
Bonjour à tous et merci à vous tous de m'accueillir dans votre laboratoire. Je suis très contente d'être ici. Moi, je travaille sur... je questionne la rupture entre nature et culture par un pendant que j'imagine parallèle qui est la séparation entre corps et esprit. Et pour réfléchir à ces questions-là, j'ai différents terrains, et dont l'un est... et celui de la création contemporaine chorégraphique. Et ce terrain m'a permis d'aborder la question des différents modèles de corps qu'il y a pu avoir à la fois au cours du temps et à la fois chez différentes personnes. Pendant quelques années, on a travaillé avec un groupe qui s'appelle Soma & Po, pour somatique, esthétique et politique, sur des corpus d'écrits de praticiens somatiques, donc des gens qui avaient inventé des méthodes corporelles, plutôt dans le domaine du soin, mais qui sont aujourd'hui très utilisées en amont de l'entraînement des danseurs ou au-delà, en fait, pour des raisons... de qualité expressive du geste, pour des raisons de blessure des fois, ou d'anticipation de blessure, des raisons aussi des fois de projet esthétique, c'est-à-dire que c'est à partir de cette micro-qualité du mouvement qu'il va y avoir une émergence du geste qui va derrière servir des enjeux créatifs. Et donc là, oui, on est dans la session création aussi. Je voulais dire ça parce qu'il y a des choses que peut-être que je vais éviter de parler, mais pour me concentrer... sur cette question de la création. Et ce travail-là, qui a vraiment été mené avec de la pratique et ses corpus écrits, nous a amené à réfléchir à un modèle de corps, quel serait le modèle du corps de l'écologie, et où est-ce qu'on voit justement des continuités qui ont peut-être été, au fur et à mesure du temps, abolies, entre à la fois... l'individu et son environnement, mais aussi entre le corps et l'esprit. Et comment, l'autre aspect important, c'était comment penser, sentir et agir sont tenus dans un seul mouvement. Quand on sent, on est aussi en train de penser, et que l'interprétation de notre sensation, elle est aussi complètement cadrée par nos savoirs. Et donc de réfléchir à justement ces choses-là qu'on a peut-être des fois en train de séparer, y compris tout à l'heure tu parlais d'un triptyque pour ajouter le mot savoir, comme s'il n'était pas dans écologie et pas dans sensible peut-être. Ça fait partie des réflexions qu'on a menées. Et voilà, peut-être qu'on peut faire plus en dialogue. Je ne sais pas si vous avez autre chose à dire.
Mais oui, avec plaisir. Et puis d'ailleurs, on a déjà commencé, puisque on a parcouru le chemin philosophique du parking tout à l'heure avec les sirènes du Drac. Là, donc c'était notre première rencontre, effectivement. Donc on avait commencé à parler d'animal, tout un tas de choses. Et ce que tu viens d'évoquer, en effet, continue à résonner avec mes propres travaux. Alors moi, au risque de choquer toute la salle, je suis chercheur, mais je n'ai pas de terrain. Voilà. On est sur une question de sensible. Donc comment travailler sur le sensible sans terrain? Eh bien, effectivement, peut-être que si je travaille sur le sensible, c'est que j'ai travaillé sur des gens qui défendaient le sensible ou qui avaient essayé d'inventer des méthodes sur le sensible ou promouvoir des approches théoriques par le sensible. Donc c'est un travail sûr plutôt qu'autre chose qui m'intéresse plus largement en tant qu'enseignant en architecture, C'est le sens de l'architecture et de l'architecte dans le monde anthropocénique dans lequel on est déjà largement installé. Et ce que j'essaie globalement de montrer avec mes travaux, évidemment je ne suis pas le seul, c'est que si notre époque a besoin des architectes, c'est certainement d'une autre façon. Et toute la question étant de savoir de quelle métamorphose il s'agit, comment la mener et quels sont aussi les freins, les leviers, les verrous, les moteurs de résistance à cette métamorphose de l'architecture, peut-être pour essayer de trouver une discipline et des acteurs qui soient capables d'autre chose que ce dont ils sont capables, ce dont ils se sont révélés capables historiquement. Donc ça, cette grande question m'a amené à travailler sur la thématique de l'habitabilité, qui évidemment est aussi hautement liée à des questions de sensibles, d'intimes, de subjectivité, de corps, d'esprit et tout ça. Je me suis intéressé au collectif d'architectes, en tant qu'ils peuvent être considérés comme une des alternatives au modèle dominant de la pratique, et collectif d'architectes qui, d'une certaine façon, convoquent aussi à leur manière, et peut-être de façon moins universitaire, moins théorisé, mais tout un fuseau qu'on pourrait rattacher aux questions du sensible, parce qu'ils sont dans l'espace public et il y a une forme de performance aussi des corps qui... je pense à un livre notamment de Raoum Labor qui s'appelle « Acting in public ». On a ce double sens de l'acting qui est non seulement l'agir, mais là aussi l'acteur qui se représente en train d'agir. Avec la performance que ça induit, j'ai mené des travaux sur les biorégionalistes. Biorégionalistes qui rejoignent aussi exactement en fait, ce que tu évoquais, dans le sens où une des hypothèses biorégionalistes fondamentales, c'est la possibilité, qui est évidemment un horizon qui n'est jamais atteint, c'est la tentative d'essayer de fusionner non seulement le corps et l'esprit, la nature et la culture, mais aussi en plus de tout ça, le lieu et la communauté, voire les communautés plus qu'humaines, et que tout ça puisse quelque part fonctionner en harmonie. Donc c'est une hypothèse qui est déjà assez vieille maintenant, qui à plein d'égards pourrait presque être considérée obsolète, au regard du fait qu'elle est un peu fixiste, c'est-à-dire qu'elle résonne toujours dans un monde un peu figé. Là, il y a une biorégion, là, il y en a une autre. Quelqu'un comme Emmanuel Ecoccia, par exemple, aujourd'hui, affirme ça aussi, que le concept d'écosystème est un peu obsolète parce qu'il appartient finalement à une même pensée. On pourra en débattre. Enfin, je ne suis pas Emmanuel Ecoccia, mais je réfléchis un peu à tout ça en ce moment. Et je pense aussi à t'écouter que les biorégionalistes, notamment, faisaient ce qu'ils appelaient du théâtre réhabitant, ce qui était une forme de performance artistique où ils jouaient et dansaient des communautés plus qu'humaines. Donc ça pouvait être aussi des lézards, des loups, par leur corps, dans les lieux eux-mêmes, comme des manières de se réancrer dans les lieux et ces communautés plus qu'humaines. Et puis, pour finir, enfin... je travaille aujourd'hui sur l'animal, plus précisément, donc on en parlait tout à l'heure, l'animal plus que la biodiversité, quoique paradoxalement, bien sûr que l'enjeu central sur les questions animales, pour moi, il est quand même ce qu'on entend des fois sous le terme de crise de la biodiversité, ou d'effondrement de la sixième extinction de masse, ou de toutes ces choses-là, donc une question qui... le chantier qui est ouvert, en fait, il est à la fois du côté de l'éthique animale et de l'éthique environnementale. Tout l'enjeu étant de voir comment l'architecture pourrait réconcilier les deux. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai choisi donc ce terme d'animal parce qu'il me semblait justement plus à même que la biodiversité, comme entrée conceptuelle, de convoquer des questions sensibles. Peut-être que l'animal, dans l'imaginaire commun, et moi, le mien en premier, c'est la part sensible de la biodiversité. Quand on rencontre la biodiversité, on rencontre l'animal, quelque part. Formulation simplificatrice, mais qui a le mérite de faire avancer en posant les questions du coup aussi du corps animal. Comment le corps animal, comme tu posais la question du corps humain et peut-être non humain, justement, de l'ère écologique. La conception architecturale, on le sait bien, elle est quand même centrée sur des questions de corps qui lui donnent ses dimensionnements, ses parcours, ses perceptions, et on part quand même assez souvent, quoi qu'on sache que c'est gênant, on part toujours d'un corps qui est plus ou moins celui du modulor et qui est occidentalo-centré, androcentré, assez normatif. Et donc peut-être que l'animal, parmi d'autres sujets, peut nous aider aussi à réfléchir à l'architecture par d'autres entrées corporelles, d'autres dimensionnements, d'autres pratiques spatiales, d'autres usages, d'autres perceptions. Je m'arrête là.
Merci. Une petite question de précision pour ma part. Tu parlais modèle de corps de l'écologie. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus, si tu veux bien ? Et Perrine, je ne sais pas si tu as des questions juste de compréhension.
La question, ça serait de se dire, bon, si la modernité a inventé ce corps qui serait séparé de l'esprit, quel serait du coup le corps qui serait écologique ? Et comment il se repenserait ? À quel endroit on est sur un sujet ? À quel endroit on est sur des enjeux aussi de laisser place à l'inconscient ? À laisser place aussi à des rythmes. Enfin, je pense par exemple à la question des rêves ou tout un tas de qu'est-ce qui vient tout d'un coup faire partie de quelque chose qui deviendrait indissociable de cette pensée des corps. Et peut-être que après je parle de modèle de corps, mais des fois je varie et je parle de pensée des gestes parce que j'oscille assez souvent entre ces deux endroits-là et qui sont peut-être pas du tout évidents pour les gens que ce soit au même endroit. Et moi, j'avais une question pour toi en t'écoutant. C'était, c'est marrant parce que pour moi, l'habitabilité, naïvement, j'aurais dit, tiens, c'est pas la question de l'habiter. L'habitabilité, ça serait les conditions de l'habiter. Et l'habiter, c'est justement celle qui peut être perçue de l'intérieur. Et je sais pas si toi, c'est un enjeu de faire cette différence-là ou pas.
Oui, merci. Avant de te répondre, je rebondis sur ce que tu disais qui me fait penser aux travaux de Val Plumwood qui montrent peut-être qu'il faudrait tendre vers une sortie des dualismes modernes, que peut-être ces dualismes ont participé à la construction des dominations, des systèmes de domination, et donc notamment ce que tu évoques sur le corps et l'esprit, etc., et qui est lié à des systèmes de domination. Et ce qui m'intéresse là-dedans, et ce qui me semble assez clair dans ce que tu évoques, c'est que ça politise la question du sensible et de la sensibilité en lui donnant des résonances et des enjeux assez clairs, et voilà, qui font qu'assez vite, on sort d'un attachement au corps qui serait, alors c'est très bien aussi le bien-être, mais qui serait uniquement sur des questions de bien-être ou de confort, et qui là va chercher plutôt des résonances, des tensions, quoi, en fait.
Complètement. Enfin, je dirais même que c'était l'enjeu au départ de la recherche du groupe Soma & Po, c'était de sortir des doxas qui accompagnent ces pratiques pour en réinventer les contours, en fait, les problématiser, les repenser de façon contemporaine, parce que souvent, c'est des héritages qui sont anciens et on ne pensait pas de la même façon au début du siècle que maintenant. Mais il y avait aussi, c'est pas qu'un point de vue historique d'évolution, il y avait cet enjeu du patriarcat qui était extrêmement forte, y compris dans le groupe, à être repensé. Ça venait aussi de la composition du groupe Soma & Po, hein, qui était à différents endroits aussi en train de réfléchir à cette question-là. Et en fait, les pratiques somatiques, elles sont nées aussi ou elles sont concomitantes aux pédagogies innovatives ou aux pédagogies libres, qui faisaient qu'il y avait tout un enjeu de se défaire des gestes qui étaient nocifs. Et dans écosomatique, on cherchait à penser quels sont ces gestes écocidaires et comment on reprend une puissance d'action en les conscientisant et comment on peut travailler autour de ça. Donc c'est là où Val Plumwood nous a aidés aussi sur notre chemin.
Super. Et est-ce que, du coup, dans ce que tu évoques, vous avez réussi dans la même logique ? On pose les questions entre nous. Après, on vous posera des questions si vous voulez. Est-ce que vous arrivez à intégrer... Tu es donc chercheur en humanité écologique et il y a aussi une part un peu décoloniale dans tout ça. Mmh. Là, tu évoques les questions de patriarcat. J'ai le sentiment assez fort que l'épistémologie même des humanités écologiques, elle est liée à questions décoloniales, voilà, une décolonisation des pensées, des pratiques, des corps, des esprits, etc. Est-ce que ça, vous avez réussi à l'intégrer aussi dans ce groupe que tu évoques ?
De différentes manières. Déjà, ça participe de l'histoire des pratiques somatiques, puisqu'elles sont c'est des pratiques qui naissent de la rencontre à plein d'égards des modèles orientaux de corps. à la fois par un partage de pratiques, c'est-à-dire que nombreux inventeurs de ces pratiques ont fait du judo, ont fait des arts martiaux, ou alors ont été plutôt inspirés par des modèles de corps issus de l'Inde. Enfin voilà, donc les pensées orientales ont été extrêmement importantes, mais c'est plus sous la forme de bricolage. Mais ce que ça provoque, c'est ces rencontres, c'est tout simplement de pouvoir se dire « Ah, mais en fait, sur Terre, on vit de façon très différente le fait juste d'habiter son corps. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait derrière ?» Après, il y a eu tout ce travail de construire des techniques de corps, mais ça a été peut-être dans un deuxième temps. Et évidemment que cette circulation des savoirs, elle est aussi concomitante d'un empire colonial et qu'elle s'est faite à plein d'endroits... alors d'un empire colonial ou de déplacés migrants. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi dans l'histoire des somatiques la deuxième grande vague qui existe dans les années 60 en Californie. Elle naît à la fois de la rencontre de migrants d'Orient, très précisément du Japon, de la Corée et de la Chine, et elle vient aussi du contact concret avec les peuples autochtones, Ohlone, Pomo, les praticiens ont rencontré. Moi, j'ai particulièrement travaillé sur une chorégraphe qui s'appelle Anna Alprin et qui a aussi fait sa pratique à elle et qui a été très, très en lien avec ses voisins, ce qu'elle racontait ses voisins, mais du coup, avec des échanges de pratiques collectives. Et c'est là où, par exemple, la question du rêve et des rêves est devenue très, très importante aussi dans sa pratique. Et elle propose des créations chorégraphiques où on dort ensemble pour justement travailler à des rêves collectifs de façon inconsciente. C'est un exemple, en fait. Je voulais revenir à la question de la création un moment.
Je peux poser encore une question? Ça me fait aussi penser au rituel que Starhawk développe dans Rêver l'obscur, ce que tu racontes sur la fin qui plus est avec le rêve et quand même cette décolonisation et le corps. Est-ce que ça aussi, ça nourrit votre travail ?
Alors, peut-être que c'est là où je n'oserais pas parler au nom du groupe, parce que dès qu'on est passé sur Alprin, c'est peut-être plus une histoire personnelle de ma recherche. Mais en travaillant sur une des pièces de Alprin, qui n'est pas vraiment une pièce, qui est une œuvre collective et qui peut se réinventer dans n'importe quel collectif, qui s'appelle la Planetary Dance, j'ai été amenée à travailler à la fin sur proposer une comparaison avec la Spiral Dance de Starhawk. Qu'est-ce que ça fait en fait de danser ensemble, de proposer tout simplement des chorégraphies plutôt simples, très abordables, qui reposent sur la marche ou la course, qui provoquent en fait dans l'espace un sentiment de trajectoire mais aussi collectif. Enfin, donc il y a une forme de corps paysage qui s'invente parce que ce sont des pièces qui soit se font en extérieur mais qui peuvent aussi se faire dans des grands espaces intérieurs. Et elles commencent toutes avec des gestes d'engagement. On fait ça pour quelque chose et on fait ça pour être ensemble. Mais on fait, ça va au-delà de juste être ensemble. Il y a des enjeux qui dépassent et qui sont toujours qui ramènent à des questions activistes derrière. Quoi.
Oui, ouais. Et donc une question, ce serait de savoir comment en fait les mondes de la création ou de la conception architecturale, donc que ce soit votre propre pratique, votre propre réflexion ou les champs d'action dans lesquels vous vous inscrivez, peuvent adresser des questions ou apporter des éclairages sur justement les questions écologiques, le sujet de notre journée aujourd'hui.
Comme tu veux. Je peux tenter, et peut-être même que la réponse à la question que tu me posais peut faire un début de réponse à tout ça. J'ai dit habitabilité parce que dans une optique de critique de l'habitabilité, justement parce que la notion d'habiter qui est omniprésente dans les écoles d'architecture en France depuis au moins 10-15 ans, peut-être pas tant plus que ça, mais... Et encore largement prise de façon métaphysique ou ontologique et souvent, parce que c'est pas automatique, dépolitisée. Et mon travail de thèse m'a conduit malgré moi à une gêne. Tu as prononcé aussi le terme d'habiter son corps, je crois. Et effectivement, on a toute une littérature qui montre ça, on a toute une littérature qui montre qu'on habite son esprit, on a une littérature qui montre qu'on habite avec des habitudes et une littérature qui montre qu'on habite la surprise. En fait, finalement, j'en arrivais à dire qu'on habitait tout et son contraire, qu'on habitait tout le temps. Bref, que en fait, tout ça, une fois de plus, ne menait à rien. Et pourtant, les architectes en faisaient un discours pour relégitimer leur prétention à être des experts de l'habiter et donc à défendre une forme de science de l'habitabilité qui ne se dit pas, mais dans une optique qui était, à mon sens, uniquement de se mettre en valeur, puisqu'on pouvait lui faire dire tout et n'importe quoi. D'où cette, finalement ce qui est devenu une critique de l'habitabilité. Et c'est quand même ça, finalement, que je trouve l'architecture peut amener à chaque fois. C'est un retour, en fait, à un réel et donc à des questions sociales et politiques, parce que j'ai ce sentiment que quand on est architecte ou chercheur en architecture, ce qui revient au même, quand on est engagé dans la discipline architecturale, on est contraint à être quelque part entre l'idéal et le réel, en fait, et qu'on est toujours dans les deux à la fois, et qu'on ne peut pas s'arrêter à de l'ontologie ou à de la métaphysique, parce que presque on sortirait de l'architecture, et on ne peut pas non plus s'arrêter à un pur pragmatisme, parce qu'on en sortirait aussi. Et donc, peut-être que ça, une fois de plus, c'est une sortie des dualismes, un peu de la façon évoquée avant, qui est saine à l'ère écologique, parce que l'architecte, il est habitué à faire ses allers-retours entre une intention et une réalité. Voilà. Alors après, et pour faire court, j'ai le sentiment que le plus gros frein, malgré tout, aux questions écologiques en architecture, c'est les milieux de l'architecture eux-mêmes, d'où mon engagement un peu anti-conservateur. Parce que, bah oui, c'est ça, les freins. Je vais donner un exemple, parce que c'est le premier qui m'est venu en tête, et puis c'est le dernier sur lequel je suis tombé en date. J'ai découvert il y a peu que énormément des architectes japonais les plus connus, et vraiment toutes les stars quasiment de l'architecture japonaise, je pense à Toyo Ito, à Fujimoto, à Kengo Kuma, à Kazuyo Sejima, à Bowo, c'est énorme, ont dessiné des toutes petites architectures, et j'ose le mot justement, pour des chiens, des chats, des niches, des choses qui oscillent entre le fonctionnel et le sculptural, mais l'ont vraiment fait, quoi. Ils ont senti que c'était... Et puis, tous. Je sais que cette anecdote, si je la raconte à bon nombre de mes confrères, je vais recevoir comme réaction soit un petit amusement, soit du dédain, soit de l'étonnement au regard de ces gens que jusque-là, ils respectaient et qui, tout d'un coup, deviennent... Voilà, est-ce vraiment Toyo Ito qui a fait ça ? Enfin, bon. Et c'est ça, la chose... qu'on peut faire sur la question écologique, là, en tant qu'architecte, c'est finalement s'ouvrir déjà, en tant qu'architecte et qu'architecture, à soi-même, c'est-à-dire à toutes les possibilités latentes à la discipline qu'on ne saisit pas, parce que peut-être souvent on se prend très au sérieux, et je crois que bien que l'écologie ce soit un sujet sérieux, il ne faut pas se prendre trop au sérieux pour le traiter, il faut accepter de prendre des risques, de sortir de ses habitudes, enfin, et là je retombe encore sur mes pieds en disant l'architecture doit changer, je crois. Je n'ai pas tellement répondu à la question.
Qui était... en fait, moi, j'avais deux façons de répondre à cette question. Il y avait la première, un peu avec ce que j'ai raconté avant, à quel point, d'étudier le champ chorégraphique, y compris d'un point de vue historique, pour se rendre compte à quel point on faisait différemment avant, et donc il est possible de faire différemment bientôt. Ça donne quand même de la chose de l'épaisseur de se dire qu'il n'y avait pas de constance, c'était pas fixe, et donc ça redonne du mouvement au fait que l'avenir puisse être différent. Donc ça, j'en ai un petit peu parlé, mais pour moi, il y avait aussi la question de comment ces pratiques créatives peuvent rentrer dans des méthodes de recherche et d'enquête. Et donc, j'avais envie de vous parler de voilà, ce que je faisais en ce moment. Donc on a un programme de recherche qui est basé d'ailleurs sur un observatoire de biodiversité du Muséum d'histoire naturelle, sur lequel on a développé une équipe plage vivante, humanité environnementale, sur lesquelles on travaille sur ce que laisse la mer sur les plages. Et ce qu'elle laisse, c'est principalement des débris organiques, beaucoup d'algues, en Bretagne particulièrement, mais aussi de plus en plus de macro-déchets, de microplastiques, et tout ça. Et à partir de cette entrée-là, on s'est questionné on a posé plein de questions sur l'histoire de la plage, sur son mode de gestion, comment ils ont évolué en fonction de l'utilité, en fait, parce que les algues, elles ont été pendant très longtemps utilisées, soit comme amendement des terres agricoles, puis après dans l'industrie du verre. Enfin bon, il y a toute une... D'ailleurs, il y a Jean-Baptiste Fressos qui avait fait un article sur la guerre du Varec. Donc il y a vraiment toute une histoire complexe de cette utilité des algues et qui peu à peu a changé et s'est transformé en fait avec l'avènement du tourisme, l'avènement balnéaire qui repose aussi sur une question du désir de plage, comme l'a montré par exemple Alain Corbin dans ses travaux. Et donc en travaillant sur ces questions d'un point de vue anthropologique, avec des enquêtes, on aborde, il me semble, tout un endroit, y compris de c'est quoi les problèmes vis-à-vis des algues, c'est beaucoup vis-à-vis de la putréfaction et de leur décomposition. Donc est-ce que, par exemple, les enjeux écologiques, je ne sais pas, aussi d'accepter les enjeux de la mort, des enjeux de la pourriture, qu'il y a tout ça. Et puis on a eu un autre geste qui a été d'inviter une chorégraphe à venir travailler avec nous. Et on a travaillé sur deux choses avec elle, donc Emma Tricard, elle s'appelle. La première des choses, ça a été... l'une des grosses hypothèses de mon travail, c'est de dire que les savoirs des danseurs, ces savoirs sensibles-là, peuvent venir décrire autrement les situations ou participer à compléter les descriptions des situations. Donc on a travaillé avec elle à décrire les lieux. Donc on a suivi 4 plages, en particulier dans la baie de Concarneau. La baie de la Forêt, elle s'appelle, plus précisément. Et donc un enjeu de description qui est vraiment un enjeu presque méthodologique. Et pour cela, en fait, on a travaillé sur des comparaisons où on arrive, on décrit les lieux par écrit, comme ferait un ethnographe. Et puis après, on a inventé un voyage somatique qu'on vit sur la plage. Donc un voyage somatique, pour ceux qui n'ont jamais fait ça, c'est une première partie qui ressemble à de la méditation, sauf qu'après, il y a vraiment un moment fictif où il y a une fiction qui s'invente aussi. Et après, comment on décrit les lieux une fois qu'on a eu l'expérience de cette chose-là, une fois qu'on l'a traversée, est-ce qu'on décrit autrement, est-ce que notre plume elle change, est-ce qu'on décrit différemment les choses. Et ensuite, la deuxième partie de ce qu'on a cherché à faire, c'est de ne pas travailler qu'avec nos imaginaires, mais de rendre public et de faire un protocole d'atelier participatif. Et donc, on a proposé un format d'atelier de 2 heures sur les plages qu'on a fait pour l'instant 5 fois avec du public et tout ce que ça demande d'imaginer en termes de comment on touche un public, un grand public, puisque c'était un peu notre idée. Et ça, vraiment, l'idée, c'était que si on se met à travailler sur le sensible, je voyais bien comment, à toutes les deux, dans notre collaboration, et avec Alix Levin aussi, on arrive à percevoir, à décrire autrement, comme ferait un ethnographe, mais qu'on est quand même dans notre perception, et dans notre imaginaire et dans nos cadrages, justement, d'où on vient. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour travailler avec les perceptions des autres et les imaginaires des autres? C'est comme ça que l'atelier participatif nous a paru comme aussi une entrée importante pour élargir en fait ces enjeux sensibles. Et voilà.
Moi, si je peux juste, pareil, c'est pas exactement de la précision, peut-être une forme de relance. Mathias, toi, tu as parlé de critique. Johanna, toi, tu parles plutôt de description. La question aussi de qui a le rôle de quoi, là, toi, tu parles en travail en duo. Mathias, de ce que je sais, tu travailles seul. Enfin, majoritairement, je veux dire, tu ne formes pas des duos comme ça. Donc, peut-être comment ces pratiques scientifiques qui se retrouvent à cheval entre une forme d'académisme, je mets des guillemets, je ne sais pas comment le dire autrement, et des pratiques autres, créatives, de conception, peu importe comment on les décrit, comment elles prennent corps dans vos pratiques à vous? Donc la description et la critique, je pense que c'est 2 formes, mais peut-être que vous verrez venir un peu plus longuement là-dessus. Et peut-être rappeler la question des rôles et des comment, quand on est sur des pratiques scientifiques de ce type-là, on joue ou on deal, je ne sais pas quel terme utiliser par ailleurs, encore une fois, avec la pratique de l'autre. Est-ce qu'on doit pratiquer la danse? Est-ce qu'on doit avoir des pratiques écosomatiques? Est-ce qu'on doit être architecte? Je pose la question parce que dans des travaux en cours, des collègues travaillent sur la question de la biogéologie. Je sais qu'ils sont formés sur la question de la biogéologie pour travailler en tant que chercheur en sciences humaines et sociales sur ces questions-là. Donc voilà, comment on gère aussi ces relations-là, des formes de pratiques et des savoirs qui ne sont pas les nôtres initialement. Je ne sais pas, plein de guillemets encore une fois, désolée.
Bah, je pense qu'il y a plein de façons de répondre à cette question et plein de cas très différents. C'est-à-dire, je pense que j'ai des situations très, très différentes. Mais pour moi, ça rebondissait un peu à une réponse d'ailleurs qui est dans le public. C'était comment, en fait, la pratique aiguise aussi les sens. Et donc, il y a un moment où c'est parce qu'on a aiguisé notre perception qu'on sent et qu'on voit les choses et qu'on peut y mettre des mots. Et d'ailleurs, juste arriver à mettre des mots sur ce qu'on sent, c'est déjà toute une pratique. Donc pour moi, la question de l'entraînement, elle est essentielle. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un moment où bah, peut-être que moi, je sens et je vois des choses. Mais par contre, quelqu'un qui vient participer à l'atelier, et c'est pour moi, c'était vraiment une grande question. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup et qu'est-ce qu'ils voient et qu'est-ce qu'ils sentent et comment ça se passe pour eux? Et une chose, par exemple, qu'on n'avait pas anticipé du tout, c'était des formes de mal-être dans lequel ils sont dans le voyage somatique. On les fait s'enfoncer dans le sable, par exemple. Et notre volonté à nous, c'était qu'ils découvrent les différentes formes de bactéries qui vivent dans le sable, des talitres, enfin, voilà, les puces de mer. Enfin, on était plutôt dans ce voyage. Et en fait, il y a plein de gens pour qui c'était angoissant. Donc il y a aussi des endroits qu'on avait, des angles morts qu'on avait nous-mêmes dans notre pratique qu'on n'avait pas anticipé. Et donc je pense que c'est... Après, on ne les met pas trop mal, mais c'est un des retours un peu spontanés qui est revenu. Et donc, à l'inverse, non seulement peut-être qu'on s'aiguise et on a besoin de pratiquer et on a besoin d'entraînement, mais peut-être aussi qu'il y a des choses qu'on ne voit plus. Bah parce que c'est des cadres dans lesquels on pense et dans lesquels nous on se sent à l'aise et on met de façon... Enfin voilà, je pense que ça c'est super important et c'est pour ça que moi, une des réponses, c'est de trouver des modalités de dispositifs qui accueillent un plus large public. Alors on peut le faire dans une autre recherche, j'interviens pas mal en milieu scolaire, ça, c'est une autre façon de s'y prendre. Là, c'était vraiment tout public et c'était intéressant aussi de voir qui se sent concerné par ces ateliers, qui a envie de venir. Donc, je trouve que rien que de voir qui débarque, ça répond à d'autres questions qu'on pouvait se poser.
Je vais essayer de prendre la suite en disant que j'essaie de travailler. Alors, la critique est nécessaire. Tu posais la question de la nécessité. J'ai de plus en plus de mal à voir comment on fait pour produire... de la recherche sans critique, sans pensée critique, sans autocritique, sans doute en fait. Et ça, pour moi, c'est lié à ce paradigme épistémologique des humanités écologiques qu'on évoquait, qui fondamentalement est quand même l'affirmation qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire autre chose que travailler avec l'incertitude, avec ce que Deborah Birdrose appelle des déséquilibres proliférants et non plus des fixités, comme je disais tout à l'heure. Sortir de sa discipline, ce qui veut aussi dire se mettre en déséquilibre ou faire des expériences de pensée. On parlait tout à l'heure d'essayer de penser comme un poulpe, penser comme une montagne, c'est déjà assez vieux maintenant, mais c'est toujours aussi d'actualité et difficile à la fois. Bref, tout ça forcément nécessite déjà de se mettre en difficulté, mais pour le meilleur. J'ai été très... touché par le texte de Donna Haraway de 88 qui s'appelle « Savoir situer », que j'ai découvert assez tard en fait, et qui parle d'objectivité incorporée. Et peut-être que tout ça rejoint aussi largement les sujets du jour qu'on évoque, comment l'objectivité qu'on peut produire, elle vient d'un corps, et elle essaye par là de désamorcer le vieux débat entre objectif et subjectif, en insérant une troisième voie qui est encore différente de l'intersubjectivité, qui est l'objectivité incorporée, en disant en fait, on va essayer de produire du savoir, mais tout en montrant d'où il vient, qui l'a produit, dans quelles conditions, et que donc ce savoir, il y ait quelqu'un qui puisse répondre de ce savoir derrière. Ce que j'en comprends et ce que j'en dis, c'est qu'effectivement, par exemple, à la différence, l'eau bout à 100 degrés, ça vient de nulle part, quoi. Et que peut-être, du coup, j'essaye d'inscrire mes travaux dans cette mise en lumière de leur origine et destination. Et pour finir, je dirais que ça fait quelques années que... bien pris dans les milieux des écoles d'archi, je croyais naïvement qu'à l'université, il y avait l'académie et que aller dans les écoles d'architecture, il y avait de la créativité parce qu'on était lié à la conception, à des pratiques nécessairement créatives. Et alors effectivement, bien sûr que tu démontres 10 000 fois que c'est exactement le contraire, mais je l'avais vécu par avant, par le passé, en rencontrant Dominique Lestel, avec qui j'ai la chance de co-diriger une thèse. Et en pénétrant un petit peu dans cet univers, donc c'est l'école normale supérieure en philosophie, hein, donc a priori c'est pas C'est pas le lieu qu'on pourrait dire le plus éloigné de l'académie, et pourtant j'ai rencontré là-bas des travaux et surtout des postures de recherche de gens dont j'avais l'impression qu'ils étaient mille fois plus libres que nous d'oser en fait penser, prendre des risques et sortir des évidences. Et donc ça m'a bien changé sur cette histoire de création au sens créativité, quoi, et du rapport à une académie, finalement, qui est encore académique aujourd'hui ? Est-ce que les écoles d'archi le sont ? Qui l'est à l'intérieur ? C'est peut-être toutes ces questions-là qui sont en jeu dans la question que tu poses.
Merci. Et du coup, ces pratiques, on peut dire, le mot est un peu galvaudé, mais interdisciplinaires, enfin, qui sont basées du coup sur des rencontres, sur des expérimentations, des expériences, des dispositifs, des entraînements en commun. Elles produisent parfois, enfin, ce que tu disais de l'objectivité incorporée, enfin, elles produisent certaines choses. Et comment, du coup, on revient ou on vient sur les scènes à la fois académiques et sur les scènes aussi de la production architecturale ou de la création, à partir de ces expériences situées, justement, comment on rencontre, on discute avec ces disciplines d'origine ou d'arrivée ou d'adoption. Et est-ce que ça produit peut-être de l'ordre du frottement, de l'ordre du conflit ou de l'ordre peut-être de compréhension mutuelle avec d'autres personnes qui ont aussi ce type d'itinéraire ? Et donc, quand on est transformé par tout ça, comment on revient où on vient, à d'où on venait ?
Alors, je n'avais pas compris la question comme ça, mais c'est marrant parce que là, très prochainement, en novembre, j'ai été invitée à organiser un symposium Art Sciences dans la communauté des écologues. Enfin, parce que moi, j'étais écologue de formation. Et donc, c'est le colloque d'écologie et d'évolution des Français, des Allemands, enfin bon, bref, du Benelux. Et à la fois, il y a un symposium et je leur ai proposé aussi un atelier. Je ne sais plus comment j'ai appelé ça, mais c'est devenir écosystème. Et donc, en gros, on va passer par différents organismes marins. Donc, tout vient vraiment de techniques de danse très précises. Je ne sais pas, pour la coquille Saint-Jacques, on va travailler sur du pranayama yoga pour pouvoir travailler sur des déplacements et des fulgurances. Enfin, tout est très organisé autour de pratiques de danse précises. Qui vont amener les gens à interpréter, à proposer des mouvements dans l'espace, à performer en fait des propositions. Et ensuite, il y a une espèce de jeu collectif où on va changer de rôle petit à petit. Donc, il y a aussi les bancs de poissons. Enfin, on va travailler sur la ligne latérale, tout un tas de choses. Et pour pouvoir, dans ce jeu, si ça marche bien, que ça tourne et qu'il y ait du coup de l'émergence, comme dans les écosystèmes, qui opère. Et en fait, cette proposition-là, bon, c'est comment je reviens dans ma communauté d'origine à laquelle je pensais ne jamais revenir de ma vie et à laquelle je pensais aussi qu'ils auraient jamais l'idée de me réinviter. Il y avait aussi ça quand même. Et alors là, je pense pour moi, il y a deux choses, il y a deux phénomènes importants. Le premier, c'est que je pense que la communauté des écologues, elle est en plein désarroi complet. Ils ne savent plus trop quoi faire, quoi. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils ont mesuré, ils ont donné tous les indicateurs de biodiversité qu'ils pouvaient, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec les politiques publiques. Et en gros, soit ils sont maintenant chez XR, soit ils se tournent vers les arts pour trouver un moyen de faire quelque chose, quoi. Enfin, il y a en tout cas moi je ressens vraiment une panique, un changement. Alors qu'il y a 15 ans, quand je suis un peu partie de cette communauté, ils me disaient « Mais tous, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais ça va pas, mais t'es comment t'arrives ?» Enfin, j'ai eu des gens qui étaient bienveillants vis-à-vis de moi, hein, qui me donnaient rendez-vous, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et donc là, ça change beaucoup. Et l'autre chose aussi qui me semble étonnante, c'est donc à la fois c'est aussi que moi j'arrive avec... Enfin, j'ai toujours eu cette idée, mais j'arrivais pas du tout à en parler et même à mettre des mots dessus, que... en fait, la chorégraphie, c'était quand même l'un des endroits où on avait le plus pensé la question du mouvement, la question du poids des gestes, mais aussi dans leur matérialité, la question de la performance et de l'émergence, et que toutes ces questions-là, en fait, elles sont à voir avec exactement les enjeux de la crise écologique. Et maintenant que c'est un peu plus construit, j'ai l'impression que je peux aussi revenir vers cette communauté avec des choses qui ont peut-être une pertinence qui est non mais je suis pas là pour communiquer, enfin c'est pas pour communiquer au grand public, c'est pas pour faire du divertissement et non, il y a aussi des enjeux de fond épistémologiques qui sont au cœur de nos problèmes actuels, et peut-être que si vous enlevez deux secondes votre hiérarchie des savoirs et que vous dites que peut-être que les danseurs, ils ont pensé des choses intéressantes et peut-être qu'ils ont des choses à dire sur le sujet, on va pouvoir se remettre à discuter ensemble de façon aussi constructive, quoi.
C'est intéressant de t'entendre et je suis d'autant plus gêné du coup de revenir sur la critique encore une fois en suivant. J'ai l'impression de stagner pendant que tu avances, mais ma réponse à la question, c'est ça. Malgré tout, moi, je reviens dans ces communautés contaminées par ces expériences d'autres choses, transformées du coup par là, et avec cette arme de la critique qui perturbe, qui est un peu violente parfois, mais c'est parce que aussi moi-même je crois que je fonctionne comme ça. J'aime beaucoup une citation d'un philosophe qui s'appelle Zizek et qui dit que la pensée, elle naît d'une rencontre traumatique avec le réel. En gros, qu'on ne pense pas si le réel ne nous choque pas un petit peu, on ne fait que ressasser quoi, des choses qu'on savait déjà avant. Et donc, modestement, je pense que j'essaye de générer cette forme de rencontre traumatique qui pourrait remettre en mouvement. Et finalement, ce n'est pas toujours une violence. Je me rends compte en faisant ça que les milieux de l'archi, souvent, quoi que j'en ai dit avant, sont aussi demandeurs. En fait, il y a une forme de trou, je crois, au moins à l'échelle nationale aujourd'hui, en matière de théorie de l'archi anthropocénique, critique, qui est capable de faire des liens et de ramener des choses extérieures à la discipline pour nourrir tout un tas de praticiens, mais aussi de chercheurs, nos communautés, apporter des réponses, faire avancer le débat. Il y a plein de gens qui n'attendent que ça, en fait. C'est en tout cas l'expérience que j'en ai vécue, pensant choqué, et en fait, on dit merci, c'était bien. Et tout ça me fait rien. Je pense encore à une autre citation que j'ai découverte il n'y a pas longtemps de Giancarlo De Carlo, qui disait déjà il y a au moins 40 ou 50 ans qu'en gros, la discipline ne changeait d'ailleurs que comme ça, en y amenant des choses de l'extérieur, que ça ne servait à rien d'attendre à l'intérieur que les éléments de l'intérieur fassent changer l'intérieur eux-mêmes. En gros, effectivement, on ne fait que ressasser. Et c'est là que je pense, du coup, très opérant, tous ces croisements... qu'il peut y avoir, et là peut-être avec la danse, je vais essayer de réfléchir avec la danse, peut-être à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas, qui nous force à changer. Voilà.
Après, peut-être que sur les frottements, il y avait d'autres choses que j'avais un peu, sur lesquelles j'avais pensé, c'était le fait que quand on travaille avec des artistes, on ne fait vraiment pas le même métier, on n'a pas la même temporalité, pas le même modèle économique. Et que ça a demandé, mine de rien, un travail qui a été un peu épuisant à l'université de... faire comprendre que c'était important qu'ils soient payés, de faire comprendre que c'était important que... Voilà. Et eux, de leur côté aussi, comprendre dans quelle temporalité on se lance. Donc ça, c'est des choses qui peuvent... Enfin, et je pense que c'est pas que les artistes avec lesquels ça se passe, mais en tout cas, sur la question créative, ça s'est posé. Et il y avait aussi, je trouvais sur les frottements, une autre chose qui est épuisante, c'est que, par exemple, pour faire des ateliers grand public, faut qu'on travaille le week-end, par exemple. Et du coup, d'enchaîner des semaines sans week-end, c'est épuisant, juste. Voilà. Donc moi, je fais plein de recherches sur les somatiques, mais en fait, je suis épuisée, je suis au bout du rouleau. Donc il y avait quand même aussi un peu ça de dire qu'il y a un truc, voilà, comme on n'a pas les mêmes rythmes, pas la même chose, il y a encore quelque chose qui n'est pas complètement fuite dans qu'est-ce qu'on trouve pour que ça fonctionne bien, quoi.
Et question naïve, hein, mais toi, dans tes pratiques, est-ce que les personnes avec qui tu travailles viennent, eux, dans tes mondes ? Parce que là, tu parles d'une forme d'adaptation de toi ou à leur monde. Enfin, si tant est qu'ils sont complètement séparés de les vôtres, mais voilà. Est-ce qu'il y a le retour ?
Je pense que chaque projet a été vraiment des expériences très différentes. Là, avec Emma et sur les plages vivantes dont je vous ai parlé, en fait, on s'est vus pendant 4 jours sur une semaine à 2 années différentes. Et en fait, le premier jour, à chaque fois, elle venait à notre séminaire de retrouvailles pour voir où on en était. Donc, vraiment, il y avait cet enjeu que je ne te demande pas de lire tout ce qu'on a lu. Mais alors, par contre, si tu pouvais venir et qu'on échange, en fait, à partir de ce que tu entends, ça serait super. Et puis après, il y avait aussi... il se trouve que les chorégraphes avec lesquels moi je travaille, ils lisent beaucoup, d'autre part. Donc, l'autre chose dont je pourrais parler, c'est que récemment aussi, je suis partie travailler à partir de... En fait, c'est des scientifiques qui travaillent sur les interactions entre des moustiques, la malaria aviaire et donc des oiseaux, le long d'un transect sur l'île de Sao Tomé, un transect où, en fait, la forêt a été plus ou moins dégradée. soit parce qu'il y a historiquement de la plantation à canopée fermée, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de monocultures d'huile de palme. Et en fait, ce contexte-là, c'est l'un pour moi des meilleurs contextes d'échange et de circulation des savoirs. Parce qu'eux, ils y allaient, par exemple, mais ils n'avaient même pas conscience que Sao Tomé, c'était par exemple l'île où avait été inventée la plantation et l'esclavagisme. Et donc ça, c'est vraiment le champ de l'art. On est arrivé en leur disant, on ne va pas y aller sans savoir ça. Et on a pu discuter. Alors, parce qu'eux, ils nous disaient, oui, mais ça, ce n'est pas le sujet. C'est pas, vous ne devez pas travailler là-dessus. Je fais, mais on ne peut pas faire comme si ça n'était pas le sujet. Et eux, de leur côté, je pense qu'il y a eu vraiment une insistance pour qu'on comprenne tout un tas d'enjeux à la fois de leur pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils allaient faire quand ils manipulent des oiseaux, quand ils prennent des prises de sang, quand ils, voilà, c'est quoi leur pratique, et pourquoi ils le font, et c'est quoi les enjeux derrière, et puis de comprendre que ces interactions entre plusieurs entités, elles sont en train d'être modifiées selon les milieux, et que ça, c'était comment on cherche à travailler là-dessus. Et donc ça, pour moi, il y a eu vraiment tout un tas d'échanges extrêmement fertiles. Mais par contre, je pense que si ça a marché, c'est parce qu'on avait tous un peu l'expérience du déplacement et qu'on était ouvert à ça et qu'il y avait vraiment un contexte qui avait été travaillé en amont, qu'on n'a pas pu partir aussi pendant 2 ans, alors que c'était prévu en 2020, et que du coup, on a nourri ce temps du déplacement qui ne se faisait pas par du déplacement de lecture et de rencontres sur tous ces sujets-là, quoi. Donc... Et on les a fait pratiquer aussi sur place, et y compris après avec les locaux qu'on a rencontrés. Donc ça, finalement, par exemple, Martim, qui vit là-bas et que je ne connaissais jamais avant, il fait partie du film et il s'est complètement prêté au jeu de venir interprète, en fait, de la vidéo chorégraphique. Il y a eu tout un tas de rebondissements, mais je ne dirais pas, c'est que quand on a l'impression qu'on a chacun à apprendre et qu'on a chacun le temps de le faire et que ce n'est pas de la perte de temps et qu'il y a vraiment quelque chose au fond... qui va faire grandir le projet en lui-même. Et ça, par exemple, les scientifiques, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit, nous, c'est la première fois que toute cette équipe de locaux qui, d'habitude, en fait, s'occupe, parce qu'on dort en pleine fumée dans des forêts, et donc dans des hamacs, en fait, assez loin des villages, ils servent à faire la nourriture, à transporter le... Voilà, et ils nous disaient, ah mais grâce à vous, en fait, on a juste vécu avec eux, parce que ça ne vous venait pas à l'esprit de se dire qu'il y avait les gens qui travaillaient et les gens qui soutenaient le travail, quoi. Et c'est sûr que ça ne nous était pas venu à l'idée de voir ça, des choses comme ça, quoi. Mais y compris parce qu'on avait toutes ces lectures des coloniales en amont qui faisaient qu'on n'allait pas reproduire tout ce qu'on venait de critiquer dans la situation même qu'on était en train de vivre.
Merci beaucoup, c'était passionnant. Alors d'abord, je voulais juste dire que ces questions de rencontres traumatiques et comment vous avez tous les deux déployé, déplié, je trouve ça quelque chose qui donne espoir, même si c'est très fatigant. Ces moments de friction doivent être assumés et doivent trouver leur place dans votre travail. Alors, j'ai une question qui, peut-être, ça sort un tout petit peu de ce que tu as dit à la fin. Johanna, autour de l'expérience de terrain et comment le prendre dans sa totalité, que les biologistes le voyaient que pour eux, la biodiversité ou la question épidémiologique qui se retrouve au sein d'un écosystème, ils le voyaient d'une manière très cadrée. Et en fait, dans cette rencontre, tout a été basculé. Alors, c'est une question... peut-être plutôt à Mathias, en fait, avec ces questions de biodiversité et de l'animal en architecture. Parce que j'aime beaucoup cette formulation de l'animal comme la biodiversité sensible qu'on rencontre. Mais il y a quelque chose dans cette notion de biodiversité qui n'est pas, et surtout la deuxième partie du mot, autour de la diversité, qui est une pensée systémique d'un système. Alors, il y a tout un truc normatif là-dedans. Pour la plupart des écologues, une grande biodiversité est une bonne chose. Pour la plupart, c'est normalement un système plus résilient qui peut. Et il y a quelque chose avec l'animal, de placer l'animal, et surtout les exemples des architectes japonais pour le chien. Alors ça, c'est des animaux déjà individualisés. déjà domestiqué, on pourrait dire. Alors, d'une manière, le mouvement vers un d'or de l'architecture est tout petit. Et je me demandais s'il avait des autres figures qui pourraient servir de rendre cette rencontre encore plus traumatique et de mettre encore plus en cause qu'est-ce que c'est un bâtiment, qu'est-ce que c'est une ville, qu'est-ce que c'est une... Je sais pas si... Ouais.
Oui. Oui. Non, mais en plus, ce mot d'animal, il a plein de problèmes. Il ne faudrait pas l'utiliser. Donc, ne rentrons même pas là-dedans non plus. Et oui, avec le fait que c'est sûr que cet exemple que j'ai donné, il est nul. Mais il est justement tellement anecdotique. Et je me dis, même ce truc anecdotique, il ne nous sort pas de nous-mêmes. Il est tellement refusé par nos milieux, alors vraiment, on va aller nulle part. Parce qu'on ne prend pas le risque de réfléchir à plus large que même ça. Quoi. Et alors qu'en effet, là, l'enjeu des recherches que je mène là-dessus, en tout cas, il est introductif. C'est-à-dire que j'essaye déjà de comprendre pourquoi ça n'existe pas encore, pourquoi il y aurait un enjeu à ce que ça existe, à travailler là-dessus. Quel genre de piste éthique, épistémologique, pratique il faudrait mettre en place pour pouvoir le faire sans trop se gourer du type des problèmes du mot animal lui-même. Et puis après, à différentes échelles, quoi, comme tu l'as évoqué, qu'est-ce que ça génère en termes de ville ? Il y a eu des travaux là-dessus, sur la zoopolis, par exemple, qu'on connaît aujourd'hui au travers des travaux de Donaldson et Kim Lika. Très intéressant. Mais en fait, la géographe Jennifer Walsh a proposé le concept de zoopolis 20 ans avant eux, et sous des travaux qui étaient un peu différents, sous un angle un peu différent, et qui s'adressaient beaucoup plus directement au champ de l'urbanisme, en disant toute cette discipline est anthropocentrée, l'animal est instrumentalisé à l'intérieur ou absent, et qui confrontait les urbanistes à ça, ce que fait un peu moins, je trouve, le travail qui est plus de la théorie philosophique et politique et juridique de Donaldson et Kim Lika. Bref, par exemple, quand on tombe à l'échelle de l'urbain, il y a ça, ou de se dire ben, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de constater que juste il y a une absence d'animaux non humains en ville et que donc on n'est plus confronté à cette présence au quotidien, on ne coévolue plus. Alors on en parlait tout à l'heure avec toutes les ambiguïtés de ce mot coévolution vu l'impact qu'on a aujourd'hui déraisonnable. Voilà. Mais en tout cas dans nos corps, justement, la question que je pose en fait, qui me semble transformatrice avec ce concept d'animal pour l'architecture, elle rejoint largement cette idée de ce que j'en comprends, du corps, corps-esprit écologique. Oui, parce qu'elle pose des questions de confrontation, de quotidienneté, de sensibilité, en un sens un peu complet, mais même, j'ai envie de dire, d'imaginaire. De cosmologie, enfin de voilà, qu'est-ce qu'on met comme sens à la vie en fait vécue et comment on donne du sens à la journée qu'on est en train de vivre en se levant le matin, quoi. C'est quasiment ce genre de truc qui me semble en latence dans la figure de l'animal plus que dans la figure de la biodiversité. D'ailleurs, j'aurais tendance à me méfier de la façon dont le monde actuel, comme pour la transition écologique, parle tout le temps de biodiversité. Et pourquoi, si ce n'est parce que justement ce mot ne le met pas en porte-à-faux. La transition, c'est la condition même de survie de la société qu'on a, qui justement essaye de ne pas disparaître, mais de transiter pour perdurer. Et la biodiversité, d'une certaine façon, comme le bilan carbone ou je ne sais pas quoi, elle est tout à fait capitalo-compatible. Et l'animal, à plein d'égards, moins. Quoi. C'est ça sur lequel j'enquête, en tout cas.
Ouais, je crois que je pensais plutôt à une sorte de meute ou une... Ouais, je sais pas,
exactement. Quoi. De réensauvagement, les travaux sur le réensauvagement, il y a peut-être cette rencontre traumatique là, avec un bison. Pourquoi pas?
C'est peut-être pour continuer sur cette rencontre traumatique, mais du coup, ça s'adresse à vous. Pour peut-être. Revenir à ce que la critique nous a été, comment la critique nous a été proposée par en particulier Walter Benjamin pour voir si ça rencontre votre accord. Il me semble que ça rencontre votre accord, donc je vous explique. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans un texte de Benjamin, c'est qu'on lui demandait qu'est-ce que la critique, et lui répondait qu'il ne savait pas trop ce que c'était, mais il savait ce que c'était que le travail critique. Et donc pour lui, le travail critique, c'était trois choses. Donc, travailler sur un corpus, un terrain, quelque chose. Et il disait, deuxièmement, trouver les conditions, les façons d'aller à la rencontre de cet objet, de ce corpus, mais d'être transformé par lui. Donc ce n'est pas forcément le choc traumatisme, c'est aussi une construction volontaire de trouver les conditions d'une rencontre et les conditions pour que moi-même, je sois altéré par cet objet. Et il disait troisièmement, et ça rejoint, je pense, il disait troisièmement, oser à son tour en produire quelque chose que l'on rend public, ce qu'il appelle le style critique. C'est-à-dire, pour moi, c'est là où il y a la place aussi de l'art, ou du texte, ou de la littérature, ou de l'article scientifique. C'est-à-dire que cette troisième action, en fait, qui est à son tour oser, alors il le dit quasiment, il dit oser fragilement, oui, je ne sais pas quel mot il utilise, quoi, mais déposer quelque chose à son tour. Et je trouve qu'il y a un lien pour moi qui est possible entre ce que vous nous dites et cette pensée-là, et qui n'a pas forcément besoin de toute l'histoire de l'évolution de notre XXe siècle, qui va jusqu'à la décolonisation, pour quand même accepter une part de pensée critique telle que certains nous l'ont un petit peu amenée. Et introduire cette part d'oser à son tour, en fait, produire quelque chose, qui me semble être peut-être le point qui rejoint aussi vous. Mais voilà, je vous soumets ça parce que c'est là-dessus que moi, par exemple, je me construis. Et ce qui est, voilà.
Il y a deux choses qui me venaient. La première, c'était de partager. En fait, on en a parlé tout à l'heure, comment on partage une recherche, quels sont ses formats de partage, à qui on partage, comment on revient à nous enquêter. Et puis à qui, quand est-ce que, quel est le format, même là où on propose une discussion, c'est super, alors qu'on est dans le milieu académique, mais c'est pas toujours les modalités dans lesquelles on est pour discuter ensemble. Donc pour moi, il y a vraiment cette question de comment on partage, et une même recherche a peut-être besoin d'avoir plein de formats et des formats différents selon les personnes à qui on s'adresse, donc ça je pense que c'est super important d'y penser en amont. Mais après, j'étais un peu surprise quand vous disiez on n'a pas besoin de revenir sur toute l'évolution du XXe siècle pour réfléchir à ces questions-là. Bah, en fait, juste, ça dépend quand même des sujets. Moi, je sais que sur la question des laisses de mer, par exemple, des algues, ou la question là, de Sao Tomé, la question de la plantation, en fait, j'en ai besoin de cette épaisseur historique, parce que c'est parce qu'il y a eu vraiment des pensées très différentes et au cours du temps que je peux comprendre quel est l'héritage aujourd'hui qui pèse sur les situations. Et j'arrive pas à comprendre les situations si j'ai pas compris cette histoire-là, quoi. Donc ça, j'arrive pas, moi, à... Et je suis pas du tout historienne, donc c'est pas du tout comme un historien que je le fais. Sur les algues, par exemple, j'ai eu vraiment la chance de travailler avec Alix Levin, qui a vraiment fait un travail d'anthropologie de l'histoire sur ce terrain-là. Elle a été dans les archives, vraiment... Donc elle a fait un travail d'historienne, elle a plein d'endroits, en tout cas dans les corpus à étudier. Et je pense que c'est pas... Enfin, pour moi... J'arrive pas complètement à me dire que les situations qu'on vit aujourd'hui et la façon dont on est ensemble ne sont pas l'héritage de tout ce passé et que j'en ai besoin pour les comprendre, en fait.
Ouais, moi j'ai l'impression que je crois pas qu'on ait évoqué le nom d'Anna Tsing, mais elle est là quand même en fantôme. Et ce que tu évoquais, Nicolas, me fait penser aux histoires de contamination chez Anna Tsing, où là on est contaminé par un terrain, et tout ça transforme, co-transforme à chaque fois. Et on pourrait relire presque tout ce qu'on a dit, je trouve, avec Anna Tsing, l'art de l'attention chez elle, les proliférations, enfin, il y a énormément de trucs qui... Et alors, sur la deuxième partie, qui est cette restitution, si je la comprends, enfin, le fait de redonner... Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la manière dont peut-être qu'une fois qu'on a traversé nos traumatismes, là, tout ce qu'on vit, enfin peut-être un peu notre psychanalyste, c'est la manière dont on ne peut plus produire, je trouve, un texte. Alors j'aurais envie de dire académique, là pour le coup, l'air de rien, passant tout ça, sans annihiler tout ce qu'il y a eu avant. Je pense à l'écriture de Donna Haraway qui est fusionnelle avec le contenu. Enfin, contenant, on ne pourrait pas l'écrire autrement sans perdre une partie de ce que ça dit. Et ou aux travaux qui m'ont beaucoup marqué aussi d'Éric Chauvier, qui est donc anthropologue aussi bien connu dans nos milieux, mais qui a cette capacité à réinventer des modes d'écriture qui parlent de sa méthode d'enquête. Je pense notamment à un petit livre qui s'appelle La Petite Ville, qui est incroyable de ce point de vue-là, parce qu'entre parenthèses en italique, il invoque une double situation, donc où les choses peuvent se retourner. Par exemple, il raconte un terrain sur lequel il est, et en italique, il raconte ce qu'il pense, en même temps que la situation. Ah, ça me fait penser à Foucault, ce que ce type me dit au bar. Ah, mais il ne faut pas que j'ai l'air trop intellectuel, sinon il va pas. Et là, on pourrait presque reboucler avec les questions qui étaient évoquées juste avant, de difficultés sur le terrain, avec ses interlocuteurs, qui sont aussi ses objets d'étude, mais qui interagissent en fonction de notre paraître. Enfin bref, et il raconte tout ça dans un format de retranscription dont, à nouveau, je trouve c'est fascinant de se dire que c'est indissociable de la méthode et de la valeur même du texte, en fait, en tant que savoir. Pour pas être trop prout, mais Adorno disait « La valeur du savoir se mesure à la distance qu'il prend avec les précédents. » Et là, je trouve qu'on est exactement là-dedans.
Il prend le risque de la littérature.
Exactement, il prend le risque d'une littérature, mais d'un point de vue épistémologique, en fait. C'est ça qui est...
En tout cas, moi, je m'autorise ce format artistique y compris. Et je pense, en effet, que c'est parce que l'art me soigne aussi, ouais. Et qu'il y a tout cet enjeu-là aussi. Ouais. Ou en tout cas, la pratique de l'art, peut-être plus.
Mais j'insiste, tu dis tu te l'autorises, mais il est nécessaire. Est-ce que tu pourrais même faire sans, finalement ? Est-ce que c'est juste... liberté que tu prends.
Bah, j'ai l'impression que les trois quarts des gens dans l'académie, ils font sans. Donc, a priori, on n'est pas spécialement destiné à faire ça.
Et mais toi, c'est ta nouvelle contrainte maintenant.
Oui, bah, moi, je la vis très bien, cette nouvelle contrainte. Mais par contre, je ne la fais pas tous, sur tous mes projets, premièrement. Des fois, j'aime bien la collaboration avec des artistes, c'est-à-dire qu'eux s'emparent aussi de tous ces enjeux-là pour qu'ils les mènent à leur endroit et pas forcément au mien. Ou alors, ça peut devenir le nôtre, c'est super dans ce cas-là. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi le fait que. Dans une recherche, c'est vraiment la question de qu'est-ce qui correspond le mieux au contenu et quel type de format. Ça, c'est vraiment une attention que j'ai beaucoup. Mais on pourrait, même la question des actes, par exemple. Ça, je te racontais sur Sensation Animale qu'il y avait des ateliers de danse, il y avait des témoignages, il y avait des conférences très classiques. Comment, en fait, on trouve des types actes, enfin des traces, en tout cas, de ce colloque qui rendent compte de façon sensible, puisque c'était sur Sensation Animale, et voilà, se prendre la tête sur les formats à cet endroit-là, pour moi, c'est un acte artistique, et ça va ressembler à un objet un peu créatif, forcément. Mais voilà, je trouve qu'il ne faut pas non plus l'imposer à des collègues qui ne seraient pas là-dedans, et que c'est parce qu'il y a plein de collègues qui ne sont pas là-dedans aussi qu'ils ont le temps d'être précis à plein d'autres endroits où là, je ne le suis pas, quoi. Non,
mais
c'est
vrai aussi. Mais c'était une question qui est... Enfin, je ne sais pas comment dire, très naïve. Et dont on parle depuis le début, mais j'ai l'impression que c'est pas clair. Mais le geste artistique, à quoi il sert finalement pour vous, au fond de sa définition? Parce que au final, un texte qui parle, j'en sais rien, d'une résurgence ou d'une contamination, a pas forcément un caractère forcément littéraire. Il peut être très scientifique, être compréhensible de la même manière. Du coup, vraiment au fond. À quoi renvoie le geste artistique pour vous, ou créatif en l'occurrence?
Bah moi j'ai l'espérance qui renvoie à changer le monde, enfin, c'est un truc comme ça, quoi. C'est pour ça que j'y suis attachée et que voilà. Et je pense que c'est vraiment un endroit où on peut recomposer nos subjectivités et qu'on peut y travailler. Donc ouais.
Du coup,
c'est plus un espoir.
Mais du coup, enfin. Je suis désolé, j'essaie de bien les formuler. Du coup, cet espoir-là, il est personnel, il est intégré pour vous, ou est-ce que du coup vous essayez de le partager en partageant la création justement cette chose-là? C'est là ma question plus.
Bah, par exemple, tout à l'heure, je parlais de comment des gestes artistiques, ou en tout cas qui ont été inventés dans le milieu de l'art, peuvent aujourd'hui, il me semble, équiper des ethnographies. Et là, pour moi, il y a un endroit qui est plus méthodologique. Comment on arrive, si on se pose cette question du sensible, à dire que l'auto-ethnographie, c'est vraiment important, à trouver des dispositifs qui permettent d'y répondre. Et donc, pour l'instant, enfin, pour moi, ça serait presque comment il y a plein d'endroits qui répondent à des problèmes que se posent les chercheurs. Mais c'est pas exactement comme ça que j'avais entendu votre question. C'était aussi comment le champ du monde de l'art aujourd'hui, à la fois parce qu'il documente, à la fois parce qu'il cherche à transformer. Non seulement il documente, mais il me semble qu'il change aussi le geste perceptif qu'on a du monde. Il change le regard, il change. Et donc en ça, il a une espèce de responsabilité qui donne un potentiel de futur. D'autre part, il me semble aussi qu'il est l'un des endroits où il valorise des formes. De rapport au monde qui serait, en tout cas c'est très présent, c'est les artistes chorégraphiques qui sont engagés sur les questions écologiques, qui est de sortir des modèles de production dominants et donc d'avoir une créativité aussi à cet endroit-là. Et je pense qu'on a besoin de rêver à ce que peut devenir demain, et là-dedans je pense qu'il y a vraiment un potentiel. Après, quand on est là-dedans, moi, je me pose quand même très souvent la question de l'entre-soi, parce que je vois à quel point je suis super à fond et c'est super. Et puis, tout d'un coup, j'en parle à des gens proches de moi, mais qui ne sont pas de mon milieu, et ils ne comprennent juste rien à ce que je dis. Et donc, la question de trouver les formats pour parler au public ou pour parler, c'est pas un public. Ça, je pense que c'est une vraie question sur laquelle je bute et qui n'est pas du tout évidente, quoi.
Si je peux faire un petit mot aussi là-dessus, même si je suis moins expert que toi, mais au final j'ai parlé de plein de trucs. Toi t'es écologue, mais voilà, donc je suis plus à ça près. Je sais pas si la question est pertinente dans sa formulation, dans le sens où se demander si l'art sert, ça sous-entendrait qu'on peut faire autrement. Or, il y a une nécessité à ces pratiques artistiques, parce que le résultat et le chemin qu'elle propose, les deux, sont irremplaçables. Et soit on prend cette voie-là et ça mène à des choses qu'on ne peut pas, auxquelles on ne peut pas aboutir autrement, soit juste on abandonne tout le truc. C'est la nécessité que j'évoquais avant. Enfin, moi, je le vois de cet angle-là, en tout cas. Parce que se dire est-ce que ça sert, ça sous-entendrait si ça ne sert pas, on ne le fait pas. Pardon, c'est pas pour critiquer, c'est juste un prétexte pour développer. Voilà.
Non, mais du coup, c'était pas à quoi ça sert de manière générale, c'est pour vous, personnellement, la création et l'art. Ben voilà, c'est.
Je dirais, en tout cas, c'est comme ça aussi que je vois ce que tu évoques et puis que je le prends pour moi. Une fois de plus, c'est l'unicité du chemin qui est ouvert par ça. Et que ça sert à ouvrir des pistes qu'on ne peut pas ouvrir autrement. Et c'est presque ce que tu évoquais un peu quand tu disais les écologues, me semble, se trouver dans un cul-de-sac. Et là, ils cherchent un moyen de se réinventer, et donc ils se tournent vers ces choses qui ne sont pas eux, parce que ça va leur permettre des choses que sinon ils bloquent, quoi. Je ne sais pas si on peut faire le parallèle, mais ça réouvre, quoi, il me semble.
Oui, moi, ça me... pas tellement par rapport à toi, mais par rapport à vos propos un peu philosophico-architectural de Mathias. Et c'est par rapport au fait que tu dises, l'habitabilité, tout ça, c'est académique, ça renvoie à des formes de... Enfin, j'ai compris que ça te...
Oui, c'était dépolitisé.
Ça renvoie une pensée métaphysique, ontologique, etc. Alors, je pense à Heidegger, machin, compagnie, etc. Tout à fait d'accord. Mais quand même, je trouve un peu court de dire juste ça. Et puis, de ne pas quand même penser l'habitabilité, quoi. C'est-à-dire, en fait, on est confronté à des systèmes, peut-être pas nous, parce que nous sommes confortablement installés ici, de terrain, parce que t'as pas de terrain. Alors, moi, c'est vrai que ça m'interroge, de pas avoir de terrain, et donc de savoir comment tu la penses, cette habitabilité, quand même, parce que je vois pas à quoi comment on peut dire ça face à tous ceux qui habitent, quoi, et qui habitent parfois dans des conditions assez difficiles, où il est même pas question de biodiversité. Mais simplement de décence. Là, je ne comprends pas. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut renvoyer aux orties comme ça, cette notion-là,
Non.
Comme tel que tu le fais, quoi. Voilà.
Alors oui, effectivement, c'est peut-être l'envie de ne pas prendre trop de place ou de passer la... Enfin, voilà, qui fait que je coupe un peu vite dans les sujets. Je crois que ce à quoi j'invite sur cette notion, c'est à changer de référentiel bibliographique, c'est changer d'auteur pour la traiter, et effectivement ne pas s'arrêter à Heidegger ou équivalent. Ne serait-ce que prendre Ivan Illich, qui a traité largement d'habité de façon très explicite et de façon hyper politisée, bah, ça change ce qu'on peut faire de cette notion, et en tant qu'architecte, et en tant que citoyen, et en tant que n'importe quoi, ça la réactive, ça la déplace. On peut du coup s'amuser d'ailleurs à jouer avec les deux, quand même garder Heidegger, parce que du coup il n'est plus tout seul. Et puis les biorégionalistes, un des concepts centraux, outre l'idée de biorégion, qui n'est pas le seul qu'ils ont manipulé, bah, c'est celui de réhabiter. En fait, ils parlent de réhabitant. Et là, c'est encore une autre acception, qui n'est pas exactement celle d'Ivan Illich non plus, qui n'est pas celle de... Et quand on multiplie les entrées comme ça, avec ce qu'elle génère derrière sur cette histoire d'habiter et d'habitabilité, qui elle-même vient plutôt des mondes de l'astrophysique, parce qu'au départ, l'habitabilité, ça vient de l'habitabilité d'une planète, et c'est des enquêtes sur peut-on habiter la Lune ou Mars ou ce genre de trucs. Eh bien, c'est encore une autre entrée. Bref, et moi, j'inviterais en fait à une multiplicité, justement, de thématiques, d'époques, de points de vue, pour reprendre l'habité, mais d'une façon tellement différente de la façon dont c'est présenté aujourd'hui dans les ENSA, que ce mot en devient presque contre-productif, parce que du coup, il faut s'expliquer pendant très longtemps avant de l'utiliser pour montrer qu'on l'utilise, mais pas pareil, etc. Et que des fois, on gagne énormément de temps à parler de décence, à parler de conditions de vie, à parler d'insalubrité, à parler de tout un tas de mots qui précisent beaucoup mieux ce à quoi on réfère quand on veut parler d'habiter, et quitte à... Voilà, à... Oui, mais d'ambiance, exactement, et...
Il y a dans le champ de la danse, il y a Julie Perrin qui a écrit sur Habiter en danseur. Et il y a aussi Violetta Salvatierra qui a travaillé sur la notion d'habiter à partir d'un terrain dans des milieux psychotiques où elle regarde en fait comment habiter ensemble, c'est aussi s'adosser à des corps. Et elle a vraiment fait tout un... Habiter sa propre demeure, elle a vraiment fait un travail intéressant. Mais alors du coup, moi je me pose la question, pourquoi tu ne le fais pas pour l'animal? Pourquoi biodiversité, ça ne pourrait pas être une entrée qui multiplie justement des questions sur l'animal?
C'est une très bonne piste, effectivement. Et puis, cette, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu une introduction pour moi-même aussi. C'est une forme de, comment on dit, à l'université, une réorientation thématique que j'opère dans ma carrière. Mais pour continuer encore sur tout ça, en fait, ce qui m'a perturbé, parce que j'ai déjà eu ce genre de réaction par le passé de gens indignés à l'époque, je ne sais pas si c'est ce que tu exprimes, mais on m'a dit « mais tu ne peux pas dire ça, par exemple les SDF, tu es un salaud, tu dis qu'on habite tout, mais donc quoi, qu'est-ce qu'on fait avec eux ?» Et en fait, les travaux des ethnologues écrivent noir sur blanc, les SDF habitent la rue, essayent de l'habiter à quoi on assiste. Les prisonniers habitent les prisons, essayent de l'habiter à quoi on assiste. Et en fait... Et voilà, et il y a même des travaux comme ça qui disent exactement ça. Et là, c'est un cul-de-sac, parce que du coup, on se dit, qu'est-ce que je défends en défendant, oui, il faut habiter mieux, il faut habiter autrement, si on habite même une rue. Et justement, si je veux me mettre au service de la décence et de la salubrité, bah, est-ce que c'est la seule entrée ou la plus utile, plus performative? C'est un débat.
C'est un débat, je pense, aussi épistémologique, parce que si on se dit que... Là, je repense aux travaux, par exemple, de Violetta et qui, sur l'habité des psychotiques. À partir du moment où on se dit que les savoirs situés, ça serait un savoir sur lequel c'est le site du savoir, la perception devient le site du savoir, à ce moment-là, bah, même l'habité peut-être... Enfin, du coup, ça serait deux visions différentes, mais de fait, ils habitent comme ça les lieux. C'est des formes d'habiter, même s'ils ne le désirent pas ou qu'ils désirent habiter autrement. C'est ça que je...
Ils en développent d'ailleurs des savoirs.
Bien sûr, complètement. Et des carapaces perceptives extrêmement fortes aussi, parce qu'ils ne peuvent pas justement être... d'habiter... c'est l'heure, en fait, c'est ça.
Je sais pas. Non, oui, t'as raison, merci.